accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, le dérèglement climatique est généralisé, rapide et il s'intensifie. C'est le constat des scientifiques du GIEC dans leur dernier rapport publié cet été. Et c'est bien l'activité humaine qui est à l'origine du phénomène, qu'il s'agisse de la montée du niveau de la mer ou des phénomènes climatiques extrêmes comme les pluies torrentielles ou les sécheresses. Aucun endroit du monde n'est épargné. Plusieurs pays européens en ont fait la cruelle expérience cet été. En France, dans la baie d'Authy, dans le Nord, la montée de la mer fait reculer les dunes de plusieurs mètres par an et 12 000 habitants sont désormais menacés. Ils ont mis en place depuis 2019 un programme pour tenter d'endiguer le phénomène. C'est un reportage de Lise Verbeek.
La ville de Cailleux-sur-Mer s'étale sur 14 km de côte. Dans cette station balnéaire, à deux pas de la baie de Somme, le risque de submersion marine est une réalité. Ici, la plage de galets est scrutée tout au long de l'année. Ces galets forment un rempart contre la mer. Pour les retenir au maximum, 104 épis de béton ont été construits tous les 100 mètres.
Ces ouvrages évitent donc la migration des galets et confortent ainsi la digue de façon à ne pas avoir de points faibles en cas de tempête assez importante.
Le maire de Cailleux, Jean-Paul Lecomte.
Alors, nous avons subi donc en 2020 4 grosses tempêtes. Et sur ces 4 grosses tempêtes, les épis qui ont été réalisés donc, il y a quelques années ont très bien fonctionné.
Mais en plus de ces épis, il faut chaque année apporter environ 50 tonnes de galets sur la digue, car l'eau monte régulièrement dans la commune. Et en 2020, il a fallu en rajouter 3 fois plus. Et cela ne va pas s'arranger avec le changement climatique et le risque de tempêtes de plus en plus fréquentes et intenses. Un risque de submersion qu'il faut conjuguer avec les velléités de développement économique. L'essentiel de la commune est classé en zone rouge. Les permis de construire sont très limités, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et cela pose problème selon le maire, car Cailleux, c'est 2500 habitants l'hiver, 15 à 20 000 l'été. Il rêve à des projets innovants.
À partir du moment où on respecte les codes de référence de la plus haute des tempêtes, avec le niveau d'eau le plus haut, on pourrait imaginer, pourquoi pas, des mobil-homes flottants pour en faire donc une marina, pourquoi pas avec des logements flottants, pour s'adapter donc au niveau d'eau et pouvoir vivre dans des zones intéressantes, en préservant les sites classés, la nature, et en préservant aussi les locaux. La solution, ça serait qu'en zone rouge, on puisse bâtir au-delà du risque.
À quelques kilomètres de Cailleux, à Holt, une autre stratégie a été choisie en construisant à l'intérieur des terres. La commune est perchée sur une immense falaise en craie qui s'érode inexorablement de 40 à 70 cm par an selon les endroits. Depuis les années 80, la ville se bat contre l'assaut des vagues, mais l'association Holt Environnement et son président Xavier de Jonquière craignent que ce combat soit délaissé.
L'État a établi un projet de repli, qui s'appelait le repli stratégique, visant à dire on cesse de combattre contre l'érosion, la question c'est faut-il abandonner les ouvrages de protection, faut-il cesser de les entretenir? Et là, les Haultois disent, on ne voit pas pourquoi nous, à Holt, on nous imposerait d'arrêter d'entretenir ces ouvrages, alors que dans d'autres communes voisines, on continue à protéger les ports, les plages.
Bonjour.
Oui,
d'accord.
À Holt, en 1983, une digue a été construite pour protéger le pied de la falaise. Cette digue, c'est ce qui rassure Pascal Hippolyte, car elle protège sa maison à flanc de falaise qui domine la mer. Avec l'association Holt Environnement, il a participé à une exposition sur l'histoire du lieu et les enjeux, avec des photos anciennes.
On voit ici l'érosion, ce que ça a créé.
Donc là, pour décrire la photo, il y a
des
la
maisons
falaise
qui sont
et des maisons en flanc de falaise.
En flanc de falaise, carrément. Donc là, ces
prêt
maisons-là...
Prêtes à s'effondrer.
Voilà. On peut avoir un repère, il y a un restaurant qui s'appelle l'Horizon. L'Horizon est ici. Il est toujours en fonction, puisqu'il est toujours restaurant. Et justement, grâce à la digue, ce restaurant est toujours en place. Il n'y a aucun risque pour lui. En revanche, celle-ci, étant donné que la digue n'était pas encore construite, elle a dû être démolie. Tout à fait. Là, c'est pareil, ce quartier-là, il n'y a plus de maison du tout.
Donc il y a toute une rue qui a disparu.
Toute une rue qui a disparu, tout
depuis
à fait.
Depuis les années 80.
Tout à fait. Et en 83, il y a eu construction de cette digue, ce qui a permis de préserver ce quartier.
Bon, on va aller voir la digue.
Absolument. Où on va prendre à droite, comme ça on va voir le défilé de la digue.
Là, Et donc là où on marche, c'est sur...
C'est le premier niveau de la digue. À droite, on a le ranchement qui est assez balèze, hein, avec des énormes rochers hein, de plusieurs tonnes. Donc tout le long, on a ce premier niveau de digue et ce deuxième niveau. Donc on a quand même une hauteur, 10-12 mètres. Donc il y a eu un gros travail, une belle construction. Et c'est pour ça que là, un investissement comme celui-ci qui a été colossal, la laisser dépérir, ça serait quand même... C'est malheureux, quoi. C'est de l'argent qui serait... C'est parti pour rien.
La digue continuera d'être entretenue au mieux car cela coûte très cher à la commune qui s'était déjà endettée pendant 30 ans pour la construire, empêchant ainsi tout autre investissement, ce qui a contribué à un certain déclin de la ville. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la gestion des eaux pluviales car c'est aussi cela qui participe à l'érosion de la falaise en s'infiltrant par le haut. Un dialogue est également engagé avec les agriculteurs pour les inciter à cultiver en parallèle du trait de côte, ainsi qu'une végétalisation plus forte avec la plantation de haies pour retenir au maximum l'eau.
En Allemagne, c'est l'heure des questions. Après les inondations meurtrières de cet été, près de 200 morts, des communes en partie rayées de la carte et des dégâts dont le coût dépasse les 26 milliards d'euros. Les Allemands s'interrogent sur les raisons de cette catastrophe et sur les moyens à mettre en place pour éviter un nouveau désastre. Depuis Berlin, Julien Méchaussy.
Dans la vallée de l'Ahr, située près de Cologne, l'eau est montée à certains endroits à plus de 9 mètres. Des dizaines de maisons ont été emportées. Une région aux superbes paysages, façonnée par la viticulture, désormais dévastée. Les habitants parlent de destruction pire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ingénieurs et experts de la prévention des catastrophes naturelles travaillent aujourd'hui sur un autre bilan, celui des mesures sans cesse repoussées, comme la construction de bassins de retenue, l'arrêt de la déforestation ou encore l'interdiction de nouvelles habitations et zones industrielles à proximité de cours d'eau. Confrontés déjà au début du XXe siècle à des crues dramatiques, les autorités ont pourtant préféré dans les années 20 mettre de côté la prévention pour construire le célèbre circuit automobile du Nürburgring. Une énorme occasion ratée selon de nombreux experts. D'après l'Institut fédéral de développement urbain, la première des étapes pour éviter de nouveaux drames est la prise de conscience immédiate des risques liés au changement climatique, autant de la part de la population que des décideurs politiques. Il s'agirait de l'unique voie possible pour imposer tout un catalogue de mesures. L'une des plus importantes consiste en l'établissement de surfaces d'intérêt écologique, des surfaces vertes qui échappent au béton et contribuent à l'évacuation des eaux. Dans l'est du pays, la ville historique de Dresde a montré l'exemple. Victime régulièrement de la montée de l'Elbe, les berges du fleuve ont été libérées du béton, même en plein centre-ville. À la place, de grandes étendues vertes qui agissent comme d'immenses éponges. Les graves inondations de 2014 y avaient marqué un tournant face à l'urgence de mesures d'adaptation au changement climatique.
Faire renaître la vie des cendres des incendies. En Italie, l'été s'achève sur plus de 158 000 hectares dévastés par les flammes. Dans le sud du pays, la Calabre et la Sicile ont été très touchés, et en particulier le parc des Madonie, une zone montagneuse de Sicile. Les détails avec Cécile Debarge.
Il a fallu plusieurs semaines aux pompiers venus de toute l'Italie en renfort pour éteindre les feux qui ont ravagé le parc des Madonie dans le cœur de la Sicile. Il faudra désormais plusieurs années pour que la faune et la flore détruites par les flammes renaissent, explique le directeur du parc naturel des Madonie, Angelo Merlino.
Si on s'en tient au processus naturel, il faudra au strict minimum 10 ans pour revenir à une situation qui ne sera même pas celle d'avant, juste quelque chose d'intermédiaire. Mais on fera tout notre possible pour nettoyer puis pour restaurer la forêt et l'environnement.
Jamais la région n'avait connu des incendies d'une telle ampleur. Au-delà des dégâts environnementaux, ce sont aussi des dizaines d'agriculteurs qui ont perdu leur outil de travail, leur récolte, leur ferme, leurs animaux, des opérateurs touristiques qui se retrouvent sans activité. Pour tenter de les aider au mieux, les équipes du parc naturel ont fort à faire.
Il faut délimiter précisément les zones incendiées. Ensuite, se rendre dans chacune de ces zones pour estimer les dégâts et essayer d'imaginer comment on pourra reconstituer la végétation végétation ou même réinstaller les entreprises ou encore les infrastructures qui existaient sur le territoire, afin de ne pas laisser gagner les pyromanes et pour relancer le parc des Madoniers encore plus fort qu'avant.
À la fin du mois d'août, le directeur du parc naturel a porté plainte auprès du procureur de Termini-Mérézé. Il a déjà annoncé qu'il se constituerait partie civile. En cas de procès, il parle de véritable attaque criminelle organisée. Au total, un tiers du parc naturel des Madoniers est parti en fumée.
Limiter son bilan carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, grâce aux énergies renouvelables notamment. Mais l'Europe ne risque-t-elle pas de manquer de matières premières ? Trouvera-t-elle des ressources en suffisance pour produire les éoliennes, les batteries électriques et les panneaux solaires de sa transition verte et numérique ? Cet été, plusieurs usines européennes de voitures électriques ont dû interrompre leur chaîne de montage. Faute de semi-conducteurs, la pénurie de ces composants électroniques n'est que la partie émergée d'une inquiétude plus vaste qui concerne 30 matières premières critiques en Europe. Le reportage de notre consoeur de la RTBF, Myriam Bell.
La transition numérique et la transition verte, ça nécessite énormément de matériaux critiques.
C'était en septembre, il y a un an, à la tribune Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Il présente une liste de matières premières dont l'Europe manque ou pourrait manquer bientôt.
Lithium pour les batteries, parce qu'il faut des batteries, mais il faut aussi des terres rares. C'est des matériaux critiques.
Il y a 30 matières premières dites critiques dans la liste actualisée ce jour-là par la Commission européenne. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Il y a là surtout des métaux dont les besoins enflent au fur et à mesure que se déploient le numérique et les technologies vertes. Un exemple.
Voilà l'engin.
Oui, c'est une voiture assez répandue en Belgique.
Patrick Hendrik, c'est son nom, est professeur en aérothermomécanique à l'Université libre de Bruxelles.
Ici, on a une voiture qui a environ 30-40 kWh de batterie lithium-ion. Vous les voyez là en dessous des sièges arrière et sièges avant. Alors là-dedans, il y a un grand nombre de matières premières qui commencent à poser problème et qui vont poser problème. Donc le lithium, mais aussi au niveau des électrodes, très souvent donc du cobalt, du nickel et aussi tout ce qui est graphite.
La voiture électrique est un exemple parmi d'autres. L'essor du numérique, ses écrans plats et GSM, et des technologies vertes, panneaux solaires, éoliennes, batteries, impliquent qu'il faudra en Europe 60 fois plus de lithium en 2050 et 15 fois plus de cobalt, 10 fois plus de terres rares. Y en aura-t-il assez pour tout le monde ? Et comment ces matières seront-elles distribuées ? Guillaume Pitron est journaliste et auteur de La guerre des métaux rares.
Compte tenu de la production de ces métaux concentrée dans quelques pays producteurs, alors il y a un risque de pénurie d'approvisionnement pour des raisons géopolitiques, parce que ces pays producteurs cesseront de nous vendre et d'exporter autant de métaux dont nous avons besoin.
La Chine, par exemple, exporte 98% des terres rares utilisées en Europe et elle est omniprésente sur les marchés du cobalt ou du nickel. Cela influence évidemment les relations entre la Chine et le reste du monde. C'est la nouvelle géopolitique des minerais. Pour sécuriser l'approvisionnement européen, la Commission a lancé une stratégie. Elle cherche des solutions en alliance avec les industriels. Elle soutient le recyclage et elle négocie des partenariats avec des États hors Europe pour diversifier ses sources et pour généraliser des normes sociales et environnementales dans leurs mines et usines qui approvisionnent l'Europe. Il faut dire qu'une grande part de ces matières premières continueront à venir de l'extérieur. L'Europe possède certaines de ces matières dans ses sols et la Commission encourage les États à entamer des extractions, mais les Européens rechignent à retourner à la mine.
Nous, pays occidentaux, ne voulons pas forcément assumer le fardeau minier de ces matières premières et laissons d'autres pays en assurer la production. La mine, c'est toujours sale. Extraire du minerai, du mine et le raffiner, évidemment que le coût environnemental est lourd, voire insupportable, pour nous, Européens du XXIe siècle, qui sommes toujours plus exigeants en termes de qualité de vie. Et donc nous voulons un monde plus vert, mais nous ne voulons pas la pollution associée au vert.
Non à la mine, oui à la vie. Cette manifestation de paysans l'an dernier au Portugal illustre ce constat, opposé à l'ouverture d'une mine de lithium dans leurs collines. Ça consomme beaucoup d'eau. Aujourd'hui, ce sont les agriculteurs du Chili, d'Argentine, de Bolivie qui pompent leurs sources.
«
les soubresauts du monde à la Mostra de Venise. Le plus ancien festival de cinéma a refermé ses portes ce week-end en donnant un large écho à l'Ukraine. Ce pays, déchiré depuis 2014 par un conflit avec les séparatistes soutenus par la Russie, était présent à travers trois films, dont un documentaire choc de Lou Bureau. Dans Tranchée, son premier long métrage documentaire, le reporter de guerre français montre le quotidien des soldats de l'armée régulière ukrainienne dans la région du Donbass. Lou Bureau, que notre envoyée spéciale à la Mostra, Sophie Torletin, a pu rencontrer.
Les commandants ukrainiens, en fait, ne sont pas au courant de ce film. C'est-à-dire qu'en fait, tout a été négocié avec les commandants locaux à travers les contacts que moi j'avais déjà de par mon expérience et mon vécu en Ukraine et aussi par mes amis. Et en fait, on a négocié un accès dans une des brigades qui est donc située entre la région de Luhansk et Donetsk, qui est un point névralgique, un des points chauds un peu du conflit ukrainien encore actuellement. Tout a été négocié sur place. Et en fait, c'est un accès qui est assez incroyable parce que généralement, les journalistes, quand ils se rendent sur cette ligne de front, ou alors les documentaristes, ont accès à quelques jours à cette ligne de front, quelques semaines au plus, et en plus n'ont pas le droit de dormir dans les tranchées. Là, on a tout en fait fait de manière très informelle et on avait l'accès total sans avoir un officier de presse derrière nous qui pouvait nous dire quoi filmer ou alors aux soldats quoi ne pas dire, etc. Donc c'était vraiment assez dingue de pouvoir faire ce film dans une liberté totale et de pouvoir dormir et vivre avec les soldats dans les tranchées.
Alors ce que vous montrez, en fait, c'est un peu le désert des Tartares, non ?
Bah oui, c'est une guerre de tranchées au XXIe siècle, mais dont on retrouve énormément de caractéristiques de la Première Guerre mondiale. On entend plus qu'on ne voit dans les tranchées, donc c'est un environnement très spécial, très avec une grande promiscuité dans des espaces qui sont très restreints. C'est très particulier et en même temps, je trouve que les tranchées ont un aspect éminemment intrinsèquement cinématographique. Surtout que nous, en tant que citoyens européens, on a toute l'imagerie de la Première Guerre mondiale qui revient, il y a tous les films, voilà, nos images dans les manuels d'histoire. Et j'ai trouvé que c'était aussi un moyen, les tranchées, de parler de ce conflit dans une autre perspective que celle du journaliste qui va parler de qu'est-ce qui s'y passe exactement d'un point de vue politique. Là, c'est un environnement avec des soldats qui y vivent et on apprend à connaître ces soldats, à comprendre comment ils s'adaptent, comment ils survivent dans cet environnement et aussi toute la question de la guerre psychologique au final. Après, la spécificité de la guerre de tranchées, c'est que c'est une guerre de position, donc il n'y a pas d'avancée territoriale de part et d'autre. Les deux camps sont très proches, mais ils restent dans leurs tranchées. Et donc, c'est des fortifications que eux construisent par eux-mêmes. Et il y a quelque chose de très archaïque dans ce conflit, parce que en fait, ils utilisent des pioches, des pelles, comme au début du XXe siècle, en fait. Et ils construisent même les bunkers, en fait, par eux-mêmes, qui sont faits de toiles et de sacs de sable qu'eux remplissent. Enfin, c'est assez dingue. Et ces tranchées, en fait, s'étendent sur des centaines de kilomètres. On n'imagine pas, mais c'est très, très dense. C'est comme un réseau de fourmilières. C'est vraiment assez incroyable.
Mais du coup, c'était quand même très dangereux, non ? C'était une grosse prise de risque.
Moi, je dis toujours qu'il faut mesurer le risque. C'est-à-dire que moi, je considère ce conflit comme le dernier sur le sol européen, d'un point de vue géographique. C'est le seul endroit aujourd'hui en Europe où des gens meurent dans la guerre. Il n'y a pas beaucoup de documentaires de guerre, en fait, aujourd'hui. C'est un genre qui existe très peu. Parce que la plupart des gens qui vont couvrir la guerre le font pendant peu de temps, quelques jours, une semaine, deux semaines, tout au plus. Faire un documentaire de guerre, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement, ça demande de l'investissement personnel aussi. J'avais envie de faire un documentaire qui se rapproche de la fiction quelque part dans son aspect esthétique, dans la manière dont, par exemple, on utilise la musique extra-diégétique. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas du tout en documentaire, que j'ai fait dans ce documentaire. Et après, j'ai des références. Moi, j'aime beaucoup le cinéma russe. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment inspiré. Des films comme L'enfance d'Ivan de Tarkovsky ou Requiem pour un massacre de Lev Klimov sont des films qui m'ont particulièrement touché, qui m'ont permis de réfléchir à la manière dont on pouvait montrer la violence et rentrer dans les esprits des soldats qui vivent des guerres.
Lou Bureau avec Sophie Torletin sur RFI. Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.